France Musique. Musique Matin. Saskia Deville. France Musique.
Et nous sommes le samedi 3 octobre, soyez les bienvenus sur France Musique. Déjy Travailleur est à la réalisation, Emmanuel Morse-Duncan et Diego Youtouac Lopez à la technique. Bienvenue dans cette émission consacrée à la culture, à l'écologie, au chant choral et à la musique. Le menu du jour le voici. À 7h45, Sami Rachid, le violoncelliste du Quatuor Harrod, partagera un croissant et un choix musical avec nous. À 8h, dans sa chronique Battement de cœur, Marc-Olivier Dupin nous parlera d'échauffement vocal et instrumental, ce moment magique pendant lequel tout interprète met son corps en mouvement. À 8h15, notre reportage, Sophie Anastasio nous emmènera au Festival d'Ambronay, qui a opéré depuis un an un virage écologique. À 8h30, nous recevrons la violiste Margot Blanchard et Jacques Toubon, président de la FEVIS, Fédération des ensembles vocaux et instrumentaux spécialisés, afin d'évoquer la place des ensembles indépendants dans le plan de relance du gouvernement. Et puis à 8h50, Christophe Chassol, bien sûr, qui nous fera écouter de la musique indienne. Giovanni Antonini, Il Giardino Armonico, le final de cette symphonie numéro 63 en Do majeur qui porte ce titre, La Roxolane, nom d'une célèbre sultane qui a été au XVIe siècle l'épouse de Soliman le Magnifique après en avoir été l'esclave. Bien, symphonie présente sur ce 8e volume du projet Haydn 2032 lancé par Giovanni Antonini, à savoir l'enregistrement de l'intégralité des symphonies de Joseph Haydn d'ici 2032, tiens donc. Et c'est paru sous le label Alpha. Pour commencer ce matin. Et j'ai choisi également de vous faire entendre un autre compositeur à 7h37, Béla Bartók, essentiellement connu pour ses œuvres symphoniques, ses concertos et sa musique de chambre. On le connaît moins pour ses œuvres pour piano seul, et pourtant, il y a des pièces magnifiques, des œuvres d'essence nationale à forte tendance folklorique. Donc, écoutez ces trois rondos sur des airs populaires joués par Andras Schiff. trois rondos sur des airs populaires de Béla Bartók. Nous écoutions Anne Rachif. Et 7h45, c'est l'heure du choix musical d'un artiste à l'heure du petit déjeuner. Bonjour Samy Rachid.
Bonjour Jessica.
Bienvenue sur France Musique, vous êtes violoncelliste du Quatuor Harrod. Comment allez-vous?
Très bien, merci.
Il est un petit peu tôt?
Un peu tôt.
Alors qu'y a-t-il sur la table de votre petit déjeuner pour vous aider à vous réveiller?
Eh bien écoutez, rien de bien spécial, les tartines, du beurre, de la confiture, du café et du jus d'orange.
L'essentiel au final. Alors comment se passe,
exactement,
et parlons-en de grand matin, comment se passe la reprise des concerts pour le Quatuor Harrod?
Eh bien écoutez, elle s'est fait avec le plus grand bonheur de retrouver le public, de retrouver ces sensations uniques de jouer de la musique devant des gens et non pas devant des caméras. Donc ça fait plaisir de retrouver un peu ce pourquoi on fait ce métier, de retrouver l'échange. Et puis on retrouve aussi enfin, physiquement, ce que ça représente, le rythme des concerts, les voyages, tout ça. Donc ça fait vraiment du bien. On se sent à nouveau vraiment vivant, quoi.
Et le stress aussi avant de monter sur scène?
Bah ouais, on a retrouvé un petit stress pour les premiers concerts et après on est revenu un peu dans, on a repris nos sensations. Mais c'est vrai que les premiers concerts, c'était un peu spécial, quoi.
Quels sont les échos que vous recevez du public justement qui franchit le cap et qui retourne dans les salles de concert?
Ils sont vraiment, vraiment enthousiastes. Ils se sentent d'une certaine manière privilégiés parce qu'avec ces jauges réduites la plupart du temps, c'est vrai que c'est pas vraiment la même sensation. Et puis bon, on a, comme beaucoup d'organisateurs, pour le moment on a eu que des concerts à temps réduit, sans entracte. Donc c'est vrai que le public, à la fin du concert, a aussi une sensation bizarre, parce qu'avec le masque, la plupart ont chaud. Donc c'est vrai qu'il faut trouver la bonne balance pour que ce moment reste agréable, malgré le port du masque pendant un long moment, et puis de rester assis, tout ça. Donc c'est vrai qu'il faut trouver la bonne formule, mais ils se sentent vraiment privilégiés, et nous aussi, par la même occasion.
Alors, le Quatuor Harrod a de l'actualité, notamment avec ce disque Schubert qui est sorti hier chez Warner Classics. Vous nous en dites quelques mots, Samy Rachid?
Bien sûr. Bah, écoutez, c'était une sacrée aventure parce que l'enregistrement a été décalé du fait de la crise sanitaire. Donc, tout s'est fait un peu dans le rush, si je puis dire, parce qu'on ne voulait pas toucher à cette date de sortie. Donc, il y a eu vraiment une adrénaline unique par rapport aux enregistrements précédents que nous avions fait. Et c'est retrouver Schubert, qui est le compositeur qu'on avait le plus joué quand on a commencé le Quatuor, cette jeune fille de la mort qui nous a suivis dans tous les concours qu'on a fait il y a quelques années maintenant, et d'y revenir avec un peu plus les expériences, c'est vraiment quelque chose de très personnel pour nous, de très enrichissant. Donc, quand on revient à des œuvres qu'on a
travailler dans le fond.
Après une grande pause, c'est vrai que c'est toujours un peu spécial, quoi.
Effectivement. Alors, chers auditeurs, je vous promets que je vous ferai entendre ce disque la semaine prochaine dans cette émission, parce que pour l'heure, c'est le choix musical d'un artiste à l'heure du petit déjeuner. Vous nous présentez votre coup de cœur musical, Samy Rachid.
Bien sûr. Alors, j'ai choisi un extrait de l'opéra Eugène Onéguine de Tchaïkovski, chanté par Benjamin Bernheim, qui est un de nos plus grands ténors français, un timbre de velours, une diction parfaite. Et vraiment, c'est un bonheur. J'ai vraiment été scotché par cet album, où il chante en trois langues, en français, en italien et en russe. Et Tchaïkovski, c'est vraiment, on est dans le romantisme absolu, on est dans la passion, et cet air génialissime me fait beaucoup de bien.
Mais c'est vrai que c'est sublime, vous m'ôtez les mots de la bouche avec ce timbre de velours. Le vôtre n'est pas mal non plus, Samy Rachid, hein, on va pas se mentir. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres de grand matin. Bon appétit et à très bientôt sur France Musique.
нет нужды прав судьбы закон. Аллилуйя, стрелой пронзенный, или мимо пролетит она. Все благо, бдения и сна приходит час определенный.
cette sublime voix, celle de Benjamin Bernheim ici dans cette berceuse coude à coude de Jane Onegin de Tchaïkovski. Benjamin Bernheim accompagné par le Philharmonique de Prague. Emmanuel Vium à la direction, c'était le choix musical de Sami Rachid, violoncelliste du Quatuor à Rhodes. Quatuor à Rhodes, donc, je vous rappelle la sortie du disque Schubert chez Warner Classics, on en reparlera la semaine prochaine. Et puis un concert déjà à noter à votre agenda, ce sera le 24 janvier prochain à l'Opéra de Bordeaux. Et je vous offre ce matin des places de concert pour le Festival aux Armes Contemporains qui se tiendra du 9 au 12 octobre à la Scala Paris. Festival dont France Musique est partenaire, il se fait l'écrin de la musique d'aujourd'hui. Vous pourrez entendre des œuvres de Philippe Leroux, Michael Jarrel, Alexandru Marqueas, Francesco Filidei ou encore Raphaël Sévère. Je vous offre donc des places pour l'un des concerts de ce festival. Ce sera le lundi 12 octobre à 21h. Le compositeur Benoît Menu présentera Les Îles, deuxième disque monographique du compositeur paru chez Harmonia Mundi. Les Îles, une traversée, une invitation à un voyage musical entre la Bretagne et les Caraïbes. Nous allons écouter tout de suite un extrait. Pour tenter votre chance, rendez-vous sur francemusique.fr sur la page de l'émission Musique Matin. Vous nous laissez vos coordonnées complètes et puis la bonne réponse à la question qui va suivre et vous recevrez peut-être ces places dans votre boîte aux lettres d'ici quelques jours. Ce matin, je vous propose de deviner quel est l'instrument que joue Romain David sous ma voix dans cet extrait de cette œuvre « Les Îles » que nous écoutons. Est-ce de l'harmonica, des castagnettes ou du piano? Votre réponse sur francemusique.fr. Bonne chance à vous. Un extrait des Îles de Benoît Menu interprété ici par Romain David. Joue-t-il de l'harmonica, des castagnettes ou du piano? Si vous avez la bonne réponse et que vous voulez remporter des places pour le concert du 12 octobre qui sera donné à la Scala Paris dans le cadre de ce festival aux armes contemporains, rendez-vous sur francemusique.fr.
Samedi à l'Opéra, de 20h à 23h, Judith Chen, France Musique.
Envers et contre tout, l'Opéra de Bordeaux a réussi à maintenir son ouverture de saison avec une nouvelle production. C'est donc à une Traviata miraculée que vous invite samedi à l'Opéra. Benjamin Bernheim et Rachel Willis-Sorensen y campent le couple fatal. Branchez-vous.
Samedi à l'Opéra, à retrouver sur France Musique et francemusique.fr.
Emmanuel.
Nuit blanche, musique noire sur France Musique. C'est dans la nuit de samedi à dimanche, de minuit à 3h du matin, la scène musicale africaine à l'honneur avec Cheikh Tidiane Seck, Julia Sarr, Mamani Keïta, Célène Saint-Aimé, Poupalek Sen. Sur France Musique dans la nuit du 3 octobre, de minuit à 3h du matin, à retrouver sur francemusique.fr.
France Musique.
France Musique.
Vous allez là.
Vous allez l'adorer.
France Musique, il est 8h. Et c'est l'heure de la chronique battement de cœur de Marc-Olivier Dupin. Bonjour Marc-Olivier.
Bonjour Saskia.
Alors je crois que vous avez un grand projet ce soir. Chanter.
Oui, je vais chanter ce soir.
Avec des amis. Comment allez-vous vous y préparer?
Ben, naturellement par un échauffement vocal, et je vais aussi suivre les conseils de Sophie Janin, directrice de la maîtrise de Radio France.
Un bon échauffement vocal doit préparer le chanteur choriste à pouvoir bénéficier au maximum de la répétition qui peut durer 2 voire 3 heures, mais en tout cas sans fatiguer la voix. Donc c'est un peu comme si on échauffait le corps avant une longue course à pied.
Et dans cet extrait d'un tuto de Vox, ma chorale interactive, qui est le portail numérique gratuit pour développer la pratique chorale dans les écoles lancées par Radio France, Sophie Janin fait référence au travail vocal des enfants. Les adolescents et les adultes ont-ils besoin d'un même échauffement, Marc-Olivier ?
Oui, tout à fait. Tout interprète, qu'il soit chanteur ou instrumentiste, doit prendre le temps de mettre son corps en mouvement. L'échauffement, chez les instrumentistes, se dit autrement d'ailleurs, on dit se mettre en doigt. Et ce moment de mettre son propre corps en condition de chanter et de jouer est très important. Et il y a des éléments communs à ce processus, communs pour le chanteur et l'instrumentiste, c'est-à-dire d'abord le travail de la respiration, qui est vraiment fondamental, l'étirement, la relaxation. Et c'est d'ailleurs un moment extraordinaire de retrouver le calme et la concentration pour se préparer à jouer ou à chanter. Et s'échauffer, c'est en quelque sorte savoir apprivoiser son corps par toutes sortes d'exercices pour le mettre en mouvement. Ce que nous apprend autrement le yoga, la technique Alexander, il y a beaucoup de façons d'y arriver. Mais en tout cas, ce rapport à son corps, cette remise en jeu du corps est absolument fondamentale, qu'on soit enfant ou adulte. Et avec le temps, les musiciens, amateurs ou professionnels d'ailleurs, se construisent une technique d'échauffement personnel avec les exercices qui leur conviennent le mieux. Par exemple, on sait que Glenn Gould avait l'habitude de se mettre les mains dans l'eau chaude pendant 10 minutes pour se mettre en doigt.
C'est vrai?
Mais oui, c'est quand même d'une certaine façon plus agréable que de faire une gamme. Enfin, c'est pas la même fonction, c'est autre approche. Ici, on retrouve Didier Grosjeman avec les enfants du Créa qui font un travail sur la prise d'air, la respiration toujours.
Marc-Olivier, pour un chef de chœur, comment acquérir toutes ces techniques d'échauffement ?
Alors bien évidemment, l'apprentissage, la direction de chœur comprend ces aspects très importants que sont l'échauffement, le rapport au corps. Ça s'apprend bien sûr en formation initiale dans un conservatoire, un pôle sup ou un centre polyphonique, mais aussi dans des stages. On a la chance maintenant d'avoir beaucoup de stages ouverts dans toutes sortes d'endroits de notre beau pays. Et aussi, évidemment, par Radio France avec la plateforme interactive Vox dont vous parliez, qui regorge de bonnes idées, d'exemples musicaux pour progresser artistiquement et pédagogiquement. Et de toute façon, si vous vous baladez sur Internet, vous trouvez aussi beaucoup de bonnes idées à prendre avec précaution, parce que tout n'est pas applicable comme ça. Et puis, il y a aussi une chose que je voudrais rajouter, c'est que, au fond, c'est très important que l'échauffement soit en rapport avec ce qu'on va chanter ou jouer après. C'est-à-dire que c'est pas, au fond, une bulle complètement dissociée d'une pratique artistique, de ce qu'on va jouer, chanter, mais qui a un lien vraiment entre ce travail de mise en jeu du corps et une vraie pratique artistique qui en découle. Et dans la fiction, on trouve aussi des choses formidables, dans Les Choristes, ce grand film très connu, mais aussi dans un film que nous aimons beaucoup, vous et moi, Sister Act 2, avec l'extraordinaire Whoopi Goldberg, qui est une bonne sœur et magnifique chef de chœur qui déchaîne les voix de façon irrésistible.
When Jesus was
tout cas, ça marche sacrément bien, hein, cette technique d'échauffement de Whoopi Goldberg.
Ça m'a rappelé
en tout cas exactement beaucoup de souvenirs. Merci beaucoup, Marc-Olivier. Pour ces chroniques, on réécoute sur francemusique.fr. On vous retrouve tout en voix la semaine prochaine, bien sûr.
Avec joie.
Bon week-end, Marc-Olivier.
Vous aussi.
Il est 8h05 sur France Musique. J'ai deux amants, extraits de L'amour masqué d'André Messager sur des paroles de Sacha Guitry. On écoutait ici cette formidable chanteuse Marie Perbost accompagnée par Joséphine Ambroselli. Marie Perbost qui se produisait avant-hier soir dans le cadre du festival Métis Pleine Commune qui se tient jusqu'au 16 octobre. Festival porté par le Festival Saint-Denis afin de faire connaître, de faire découvrir la musique classique en Seine-Saint-Denis. D'autres concerts n'attendent que vous. Je pense au concert du trio Sora. Ce sera le 5 octobre, le 6 octobre. Magali Léger, l'ensemble Contraste, et le 13 octobre, La Tempête. J'ai même entendu dire que Gabriel Olivier-Aguillon vous offrira des places pour ce festival dans son émission France Musique est à vous. Ce sera tout à l'heure, dès 9h sur France Musique.
Thank you.
Alexandre Tarou ici au piano pour ses extraits, le premier extrait, suite en mi majeur, le rappel des oiseaux, et puis ici ce tambourin extrait de la suite en mi mineur de Jean-Philippe Rameau. Alexandre Tarou qui sera en concert les 4 et 5 novembre prochains à la Philharmonie de Paris, et puis en duo avec la soprano Sabine Devielle, ce sera le 23 novembre à Bordeaux et le 29 novembre à Lyon. Il est 8h et presque 15 minutes, c'est l'heure de notre reportage. Et jusqu'à demain se tient l'édition 2020 du Festival d'Ambronay, un festival qui a dû se réinventer, comme beaucoup d'autres, pour se maintenir en pleine crise sanitaire et qui a également opéré depuis un an un virage plus vert. Reportage de Sophie Anastasio.
Depuis l'année dernière, sous l'impulsion de Daniel Bizeret, directeur du Centre culturel de rencontres d'Ambronay, le festival s'est mis au vert. De la nourriture au transport, tout est pensé pour moins polluer. On écoute Marina Roche-Leca, secrétaire générale du Centre culturel de rencontres.
On est, nous, une équipe de cultureux, quelque part, qui avons aujourd'hui à prendre en considération vraiment des enjeux écologiques dans nos tâches au quotidien. Ça change des méthodes de travail, ça change un peu les budgets, ça change l'approche, mais en même temps c'est tellement, c'est un besoin impérieux, il faut y aller, c'est tout quoi. On a la chance, je pense, ici d'avoir une équipe qui est quand même très mobilisée pour participer ensemble à ce projet et à ces nécessités environnementales.
Et c'est notamment au catering, lieu de restauration du festival, que s'observent ces nouvelles mesures.
Ah ben, un catering sans viande, avec des produits locaux, bio, dans la mesure du possible. Et voilà, des quantités aussi justes. Voilà. C'est des choses toutes bêtes, mais un festival, ça génère beaucoup de déchets aussi, donc il faut faire attention à tout ça. Et on a un petit groupe de travail à Ambronay tout au long de l'année, donc différents salariés de différents services se sont réunis en groupe de travail pour identifier en fait tous nos points d'amélioration dans les gestes quotidiens. Les équipes artistiques le comprennent, les équipes techniques aussi, on y arrive très bien. Voilà.
Fini aussi les emballages plastiques dans les loges des artistes. Tout au long du festival, des conférences, des discussions autour de l'écologie sont également animées cette année par le philosophe Dominique Bourg. Nous lui avons demandé quels sont les liens entre culture et écologie.
Pour moi, l'écologie, c'est très lié à ce qu'on appelle la pensée écologique. Donc en fait, c'est intrinsèquement culturel. La culture, c'est la manière avec laquelle on perçoit la nature, on travaille avec elle ou contre elle. Et donc, il n'y a pas d'opposition entre culture et écologie. Il y a une espèce de continuité totale. C'est encore une fois, si on met la culture en boîte, en silo, là, effectivement, on va imaginer que c'est des choses différentes, pas du tout.
Collé, si j'ose dire, vous avez toujours trempé dans l'écologie. Elle est présente dans tous vos films, mais est-ce qu'il n'y a pas un souvenir ou un événement, un moment, un livre, que sais-je, un film, pourquoi pas, une pièce musicale qui, à un moment donné, vous aurait, disons, plus accroché à ces questions écologiques?
Cet après-midi-là, Dominique Bourg recevait la réalisatrice Colline Serrault, à qui l'on doit La Belle Verte, Trois hommes et un couffin, ou encore le documentaire Solution globale pour un désordre total. Très engagée sur la question écologique depuis longtemps, Colline Serrault tient cependant à rappeler que le changement doit s'inscrire dans une échelle plus globale.
Le monde de la culture est un miroir, quand il est responsable et quand il est en tout cas intéressant, des grandes questions et des grands problèmes qui traversent la société. Donc c'est notre rôle. Mais je dirais que je ne mets pas la culture au-dessus de quoi que ce soit. Parce que, par exemple, ceux qui s'occupent de la terre, ceux qui s'occupent de la nourriture, ceux qui s'occupent même de la fabrication des objets, ils sont ils sont tous concernés par l'écologie. On est tous concernés par l'écologie. C'est le monde dans lequel nous vivons, c'est notre environnement. Donc c'est voilà. Moi je mets pas la culture. Moi je suis. C'est ça pourquoi je suis né un peu. Je sais faire ça, la culture, mais je ne mets pas ça au-dessus de quoi que ce soit.
Un frigidaire, un joli scooter, un atomixer et des galopillons, une cuisinière avec un four à verre, des tas de poulets et des pelles à gâteaux.
L'abbaye d'Ambronay est entourée de jardins. Leur utilisation pour offrir un lieu d'échange aux habitants ou des résidences aux artistes sera au cœur d'une réflexion ces prochaines années, affirme Marina Rochleka, avant que n'arrivent tracteurs et autres engins.
Merci beaucoup Sophie Anastasio pour ce reportage au festival d'Ambronay. Il reste encore des concerts jusqu'à dimanche. Plus d'informations sur le festival.ambronay.org, site internet du festival. Et puis sachez que Cyril Dion viendra donner une conférence ce week-end, troisième conférence autour de ce thème, culture et écologie au festival.
Musique Matin, Saskia Deville, France Musique.
Rigaudon et Forlane, deux extraits du quatrième concert de François Couperin. On écoutait l'ensemble Les Timbres, ensemble qui sera en concert ce dimanche au Festival d'Ambronay. En clôture de cette 41e édition, rendez-vous donc ce dimanche à 17h30. Juste avant de recevoir nos invités, un petit mot sur votre soirée opéra. Ce soir à 20h sur France Musique, au menu, Judith Chen vous propose un opéra dont on ne se lasse pas. Hein. La Traviata de Giuseppe Verdi, avec la soprano Rachel Willis Sorensen et le magnifique ténor qu'on évoquait tout à l'heure, Benjamin Bernheim, qui incarne les rôles de Violetta et d'Alfredo. Paul Daniel dirige l'Orchestre National de Bordeaux-Aquitaine, production captée par France Musique en septembre dernier à l'Opéra National de Bordeaux. En voici un joyeux avant-goût. Un extrait de cette Traviata de Giuseppe Verdi à écouter dans son intégralité ce soir à 20h dans l'émission Samedi à l'Opéra avec Judith Chen pour notre plus grand plaisir. Il est 8h28.
Musique Matin, Saskia Deville, France Musique.
Et dans un contexte particulièrement difficile pour le secteur culturel, 1255 personnalités du monde musical ont signé la tribune de la FEVIS, Fédération des ensembles vocaux et instrumentaux spécialisés, qui a été adressée à la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot. Tribune écrite en réaction au plan de soutien au spectacle vivant mis en place par le gouvernement. Alors de quoi est-il question dans cette tribune? Qu'en pensent les ensembles? Que pensent les ensembles de ces mesures? Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir ce matin Jacques Toubon, président de la FEVIS. Bonjour Monsieur Toubon.
Bonjour Saskia Deville. FEVIS, c'est cette fédération qui a été créée il y a maintenant plus de 20 ans, en 1999. Au début, il y avait 9 ensembles. Historique, si j'ose dire, Et aujourd'hui, il y en a près de 150.
C'est ça que j'allais demander. Combien de musiciens cela représente-t-il au total?
Ça représente la fédération, qui naturellement ne représente pas tout le secteur. Il y a beaucoup de musiciens ou d'ensembles qui ne font pas partie de la fédération. Mais en gros, on peut dire que ça représente 5000 artistes, musiciens, chanteurs, bien sûr. Ça représente, et c'est quand même très remarquable, 1 million d'heures à peu près de travail intermittent. Hein, ça c'est essentiel. 4000 concerts probablement, plus de 4000 concerts. Ça veut dire qu'on a réuni 1 300 000 spectateurs, auditeurs en 2018, qui sont les derniers éléments qu'on a dans nos études. On fait 15 à 17% des concerts à l'extérieur, c'est-à-dire qu'on a une forte activité représentative de la musique française à l'étranger, ce qui n'est pas le cas malheureusement d'autres formations musicales en France. Voilà, c'est ça cet ensemble. Et cette lettre ouverte dont vous avez parlé, elle est une sorte de traduction de la déception, la colère, du désespoir de tous ces musiciens qui ont tous effectivement signé cet appel.
Et on va
tout ce que faisait le gouvernement, finalement, était en train d'oublier ce secteur pourtant essentiel.
Et effectivement, troisième pilier de la musique classique, hein, parmi les signataires de cette tribune, on peut citer les Arts Florissants, le Cercle de l'Harmonie, l'ensemble Correspondance, les Siècles, l'Écrit de Paris, Pygmalion, la Capella Méditerranéa ou encore le Concert Spirituel des ensembles dont on parle beaucoup sur France Musique, qui sont très présents.
Mais aussi des personnes très importantes comme programmateurs, par exemple Laurent Brunet, de Versailles. Et des agents, des programmateurs, parce que c'est l'ensemble à la fois de ceux qui créent ces musiques de patrimoine et de création, et en même temps de l'ensemble des professionnels qui sont frappés par naturellement la crise sanitaire, et d'abord par un fait, c'est que vous avez aujourd'hui, quand vous pouvez éventuellement aller dans une salle pour jouer, vous avez en gros un tiers de la capacité de la salle qui est pleine. Ça veut dire un tiers de la recette, purement et simplement. Voilà, et c'est ça le nœud de l'affaire. Et le point de départ de la réaction des ensembles, et tous les signataires, c'est justement quand ils se sont rendus compte, avec la réaction d'un certain nombre de directeurs de salles qui leur ont dit « Ah mais non, tu sais, on avait prévu au mois de janvier de faire telle production que tu nous amènes, toi, un opéra. » Eh ben non, je peux pas, parce que je ne peux pas compenser les places que je ne peux pas vendre en vertu de la contrainte sanitaire, parce que je ne bénéficie pas de ce qu'on appelle le fonds de compensation qui a été créé par le gouvernement, très justement, et qui bénéficie au secteur privé, aux musiques actuelles, très, très largement. Et ils ont dit, mais c'est quand même pas possible que nous soyons, comme l'a très justement dit Jean-Philippe Thiélet, le directeur du Centre national de la musique, qui a été créé au 1er janvier, comme un fait exprès, en quelque sorte, si j'ose dire, heureusement que le CNM existait au moment où la crise est arrivée. Et Jean-Philippe Thiélet a dit, c'est l'angle mort de notre politique musicale.
Et effectivement, on va donner quelques chiffres pour que nos auditeurs comprennent bien. Un fonds de compensation de 100 millions d'euros a été mis en place pour compenser justement les pertes d'exploitation liées aux jauges réduites dans les salles. Mais ces 100 millions sont dévolus aux seuls exploitants de salles du secteur privé. Donc cela exclut tous les ensembles subventionnés. Il faut savoir que certains de ces ensembles touchent parfois seulement 1% de subventions.
Bien sûr. Le ensemble, c'est là où la... Il faut bien comprendre que l'indépendance telle que la FEVIS la représente, c'est quelque chose de très particulier. Ce sont des entreprises artistiques dont l'essentiel des ressources provient de recettes propres, c'est-à-dire billetterie, mécénat, disques, production, et dont la minorité des ressources, à peu près 25%, 30%, vient de subventions. Mais en même temps, nous faisons partie du secteur public, c'est-à-dire que notre vocation, ça n'est pas une vocation, entre guillemets, et je n'ai rien contre, ça n'est pas une vocation commercial. Notre vocation, c'est de redécouvrir des œuvres de patrimoine du XVe siècle jusqu'à aux œuvres notamment du premier XXe siècle qui ont été majeures et qu'on a souvent oubliées. C'est la création de nouveaux spectacles, de nouvelles mises en scène à partir d'œuvres anciennes. C'est, comme vous le savez, les nouvelles interprétations. Ça a été le cas au grand moment de l'époque baroque, où on a voulu revenir à l'interprétation originale des œuvres du XVIIe, XVIIIe siècle. Mais ça continue, parce que aujourd'hui, il y a plein de ces ensembles, par exemple, qui se consacrent à jouer les œuvres du XIXe siècle sur les instruments de l'époque. Et on a ainsi un véritable travail, qui est un travail, je le dis toujours, d'intérêt général pour l'éducation musicale et pour la création et la diffusion musicale. C'est en ce sens que nous devons être partie intégrante de la politique publique musicale qui est forte en France, à la fois pour le plan de relance et puis à long terme.
Et effectivement, ce sont des ensembles qui sont bien implantés en région, ces ensembles-là.
Et il y a un aspect territorial très important.
Très important, effectivement. On parle aussi de ce budget alloué à ces ensembles dans le cadre de ce plan de relance qui a été annoncé, pour donner quelques chiffres, 2 milliards d'euros pour l'ensemble du champ culturel, 432 millions d'euros pour le spectacle vivant. De ces 432 millions d'euros, 200 millions sont alloués au spectacle vivant subventionné. Et dans ces 2 millions d'euros, 30 millions seulement pour les ensembles, les orchestres et les festivals. Alors monsieur Toubon, vous avez rencontré madame la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, lundi dernier pour justement réagir à ce chiffre-là. 30 millions d'euros, on s'en rend compte, hein, avec 200 ensembles concernés et le reste, c'est beaucoup trop peu. Y aura-t-il une augmentation de ce montant ? Ont-elles changé d'avis ?
Je pense que dans les discussions que nous avons eues, et très, je dois le dire, très positives avec Roselyne Bachelot, et hier encore, nous étions tous ensemble aux états généraux des festivals qui se tiennent à Avignon hier et aujourd'hui, et qui sont une réunion où on a vraiment, à partir de données sociologiques, économiques, je dirais politiques, vraiment approfondissent cette question, le rôle des festivals. Et il est très important pour les ensembles indépendants. Certains ensembles indépendants ont d'ailleurs même créé des festivals, notamment depuis la pandémie, cet été. Et nous avons donc discuté de, un, il y aura une compensation de la billetterie manquante pour les ensembles et pour les salles qui accueillent les ensembles. Alors, pour l'instant, on a parlé de 2 millions qui ont été mis à la disposition du Centre National de la Musique, mais la ministre nous a dit on pourra aller au-delà. Et c'est vrai que, quand je vais le dire de manière comme les musiciens le ressentent, quand on leur dit, au titre de la compensation pour la musique classique, pour vous, vous allez pouvoir avoir 35 000 euros au maximum de compensation, mais qu'ils savent que par ailleurs, telle ou telle grande salle qui diffuse de la musique de variété va pouvoir toucher 500 000 euros de compensation. Ils disent, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Donc c'est le premier point, c'est une compensation spécifique. Le deuxième point, c'est aussi faire en sorte que les ensembles soient, dans la relance et dans les aides de la relance, davantage programmés, davantage aidés. Et ça, ce sont des instructions que le ministère va donner aux directions régionales des affaires culturelles, puisque vous savez que tous les crédits, et notamment les 30 millions dont vous avez parlé, en fait, ils sont déconcentrés, ils sont à la disposition des DRAC, et des instructions vont être données pour veiller à ce que, dans telle ou telle région, les sommes qui sont confiées à la DRAC ne soient pas ciblées, ne soient pas fléchées uniquement pour les grandes maisons, par exemple tel ou tel opéra régional, mais aille aussi aux ensembles indépendants. Et voilà les deux principales mesures sur le plan de relance. Mais ce qui me paraît, c'est ce qui est le plus important, c'est que, pour la première fois, on a véritablement dit que, dans la politique musicale, il fallait une action structurelle, à moyen terme, en faveur de l'indépendance. Et l'idée que la ministre a bien voulu accepter, c'est d'en discuter, et sur des crédits qui ne seraient plus les crédits du plan de relance, mais qui seraient les crédits de la politique normale, dans la loi de finances normale, nous pourrions, dans les années qui viennent, mettre en place un plan structurel, en quelque sorte, à la fois pour la structuration des ensembles, pour que les entreprises soient plus solides, et en même temps, pour que soient aidées, bien entendu, les créations, les diffusions de ces artistes.
C'est très bien. Jacques Toubon, nous sommes à l'antenne pour parler de cette tribune de la FEVIS à la ministre de la Culture. Et puis, à nos côtés ce matin également, une autre personnalité qui faisait partie de ces artistes reçus lundi dernier à vos côtés, Jacques Toubon, par la ministre de la Culture qui se trouvait autour de ces questions, la violiste Margot Blanchard, violiste et co-directrice de l'ensemble Les Ombres qui est avec nous. Bonjour Margot.
Bonjour Saskia, bonjour Jacques.
Vous étiez
bonjour,
en concert
Margot.
Hier soir au Festival d'Ambronay qu'on évoquait tout à l'heure, centre culturel de rencontre également signataire de cette tribune, concerts qui ont repris peu à peu. Que dire tout d'abord, Margot Blanchard, des perspectives de reprise pour les mois à venir, mais aussi pour 2021 et 2022?
Alors, les Ombres ont bénéficié évidemment de la chance de pouvoir passer dans le Festival d'Ambronay hier soir, qui a bénéficié d'une totale refonte pour répondre évidemment aux critères sanitaires actuels. Ce que certains festivals ont pu mettre en place, et certains ensembles aussi, puisque cette année, ce n'était pas le programme que nous avons donné hier, que nous devions interpréter, mais un programme en très grand effectif, avec un chœur, avec un orchestre. Évidemment, on a dû repenser les choses. Donc, les perspectives, elles sont bonnes dans le sens où les ensembles indépendants ont cette capacité à être assez flexibles au niveau tant de la formation que du répertoire, puisque nous sommes, comme l'a dit Jacques, notre propre entreprise. Donc, nous avons cette flexibilité vraiment de pouvoir proposer des formes qui peuvent s'adapter au contexte actuel. Maintenant, la difficulté va être pour les diffuseurs, donc nos lieux d'accueil, nos employeurs qui nous permettent de nous produire, de trouver en fait un équilibre budgétaire avec toutes les pertes qu'ils ont rencontrées. Et c'est là qu'on sent effectivement que les perspectives que nous avions pu mettre en place avec nos diffuseurs fidèles qui nous accompagnent depuis maintenant 10 ans, sont fragilisés par le contexte et que si effectivement ils ne peuvent pas bénéficier du dispositif mis en place de compensation et du plan de relance en fait de tout le secteur culturel et musical, il y a un énorme risque pour eux de ne pas pouvoir donner une édition 2021.
Je recevais ce témoignage hier d'une autre directrice artistique d'un ensemble de musique baroque qui me parlait notamment du rôle des dragues dans la redistribution qui me laissait ce témoignage. On nous pousse à demander des aides, mais généralement on se sent le parent pauvre. Les aides vont toujours aux mêmes personnes. C'est quelque chose que vous ressentez vous aussi, Margot Blanchard?
Alors, je pense que c'est malheureusement on est comme un dommage collatéral. C'est-à-dire que il y a des dispositifs mis en place. On peut quand même parler de l'exception culturelle française. On se sent quand même chanceux d'être considéré, comme on a pu se sentir tout à fait écouté au rendez-vous avec Madame la Ministre. Mais c'est vrai que ce sont des montages budgétaires. Pour par exemple, on a un nouveau projet. On veut créer un nouveau programme. On a d'abord nos fonds propres, comme le disait Jacques, donc tout ce qui nous est revenu de nos coûts de session, mais effectivement c'est la principale source des revenus des ensembles. Et puis nous avons les aides. Quand on monte une structure, on fait appel à beaucoup de dispositifs, dont par exemple celui mis en place par les DRAC. Lorsqu'on arrive en commission pour défendre notre projet, évidemment on se prépare. C'est un travail de longs mois, de longue haleine, pas seulement du côté artistique, mais aussi du côté administratif, pour qu'effectivement, budgétairement, tout soit vraiment très encadré. Et puis, il y a un vote. Ce vote, même s'il est positif, même s'il est unanime, n'aboutit pas forcément à ce que notre demande d'aide puisse être exaucée. Et c'est là où se situe le problème, c'est que pèsent très lourd budgétairement les grandes institutions. Et alors là, je voudrais vraiment parler parce qu'il y a eu tellement de polémiques sur les, comme s'il y avait un clivage entre ensemble indépendants et institutions. Et moi, je voudrais revenir sur la complémentarité. C'est-à-dire que les institutions et les ensembles indépendants, ils sont, je dirais, codépendants. C'est par le maillage culturel qu'effectuent les ensembles indépendants dans les zones rurales, dans les zones en fait où il n'y a pas forcément l'accès à ces grandes institutions, que nous créons des portes d'entrée de la culture musicale.
Et on en parlait tout à l'heure, Margot Blanchard, effectivement de ce maillon en région, de cette intégration des ensembles indépendants en région qui sont plus qu'importants. Évidemment, un nouveau rendez-vous est prévu avec la ministre fin octobre pour repenser la place des ensembles indépendants en France, prendre conscience justement de la place très importante, de ce troisième pilier qu'on évoquait avec une structure
dans ce qu'a dit Margot, légère. Par exemple, elle a souligné le rôle dans l'éducation artistique et culturelle, parce que en se répandant partout, c'est comme ça qu'on sensibilise à la musique, on éduque à la musique. Les ensembles indépendants ont, dans ce qu'on appelle les activités de médiation, une place tout à fait essentielle.
Et nous allons continuer à en parler dans cette matinale, bien sûr. Merci beaucoup Jacques Toubon et Margot Blanchard d'avoir été des nôtres pour évoquer cette tribune de la FEVIS qui se trouve sur le site de la FEVIS, qui est à signer si vous souhaitez accompagner cette réflexion. Merci à tous les deux et bonne continuation, bien évidemment.
Merci à France
d'avoir
Musique.
Été des nôtres.
Merci à France Musique.
Georg Philipp Telemann par Les Ombres, ensemble dirigé par Margot Blanchard, co-dirigé par Margot Blanchard aux côtés de Sylvain Sartre, ensemble qui sera en concert le 14 janvier prochain dans le cadre des grands concerts de Lyon et le 29 janvier prochain à l'orchestre Opéra Orchestre National de Montpellier. À noter aussi une sortie de disque Boccherini dont on reparlera très certainement sur France Musique. Il est 8h51. Et c'est l'heure de la chronique de Christophe Chassol. Bonjour Christophe.
Bonjour Saskia.
Un petit peu de musique indienne ce matin.
Oui, je vais vous faire écouter encore deux frères. J'adore les frères qui chantent ensemble, les frères et les sœurs qui chantent ensemble. Ils font du très bon boulot ensemble. C'est les Gundesha Brothers. Et puis on va écouter Raga Biag. Entendu le deuxième frère arriver. Voilà, c'est les Gundesha Brothers. On les écoute un petit peu ensemble. Bon, moi, mon but là, c'est de vous faire aimer ça quand même. Vraiment que les gens reviennent, se disent ah mais dans la musique indienne, il y a quelque chose qui peut me remplir l'âme, qui peut me combler, qui peut me... Il y a une bibliothèque, enfin il y a plein d'artistes, il y a plein de musique, et moi si je peux vous faire aimer, trouver le truc pour que vous aimiez ça me remplirait de joie, parce que je suis rempli de joie avec cette musique. Elle est stable, elle est immuable, elle est permanente. C'est la plus vieille forme là qu'ils utilisent, c'est le Drupad. Donc c'est deux frères qui chantent ensemble depuis les années 85. En 2019, Ramakanti, le frère aîné, est décédé. Et donc voilà, il y a eu plein d'hommages qui ont été faits. Moi, je les écoute depuis longtemps, les Gundesha Brothers. Ils parlent donc dans le Drupad, cette plus vieille forme de chant de musique classique indienne. Pour eux, il s'agit d'observer l'anatomie d'un son. Comment une note se crée, comment une note naît et se crée, et quelle est la propriété d'une seule note. Donc, on va entendre explorer vraiment la note et tourner autour. On va écouter leur façon d'improviser de façon gutturale dans le même morceau, Raga Biag, juste après. Comme un élastique, en fait. On va écouter maintenant le thème qui suit de ce morceau, parce que bon, la musique indienne se découpe toujours de la même façon, la lap, là, cette longue partie où on expose les notes du raga. Et ensuite, je ne veux pas tout vous dire, mais ensuite il y a le thème qui arrive. Et les tables à rentre. Avec cette note de basse qui remet tout en place. Alors donc, moi c'est vraiment la relation de la basse, donc du tempura, avec la note de mélodie qui me remplit vraiment de joie. Ah c'est tout maman, j'ai l'impression qu'un monde se remplit entre la terre et puis le cosmos. C'est une musique très métaphysique, mais très terre-à-terre en même temps, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, Saskia ?
Tout à fait.
Et ben, donc là, il y a un thème que moi j'écoute tout le temps, c'est un raga sohini, c'est un type de raga. Alors, quand j'ai identifié que j'aimais ce raga, je suis allé chercher ce raga joué par plein d'autres artistes de musique indienne. Et j'aime particulièrement chez les Gundesha, quand ils le font, on va écouter le thème, un thème en 5 temps, qui est magique. Allez, on écoute. Elle est froide, glaciale. Non, chanteur-là. Et encore une fois, je voudrais juste vous faire écouter, si on a un petit peu de temps, comment il tourne autour d'une seule note et comment il tourne sur la tension. Et que c'est cette tension, on en avait parlé la semaine dernière sur la polytonalité, mais c'est exactement la même chose là, enfin sur la bitonalité. C'est-à-dire qu'il y a cette note de basse, le ré, et il va trouver toutes les notes qui font mal, qui grattent, et il tourne autour, vous allez voir, c'est super, il est en équilibre, on écoute. C'est bon quand ça fait mal, hein. Voilà. Et alors, bon, si on a le temps, j'ai juste la fin pour que vous voyez comment il termine, c'est l'exploration de cette note, juste après le thème. Les Gounes des Chabreuses.
Musique qui fascine et qui remplit. Ouais. De joie, le cœur de chacun de nos auditeurs, j'en suis certaine. Grâce à Christophe Chassol, chroniqueur écouté sur francemusique.fr. Christophe, merci mille fois.
Merci beaucoup.
C'est toujours un bonheur.
Ah ben, un plaisir pour moi de vous partager ça.
Et allez, il me reste une poignée de secondes pour bien dire un petit mot sur notre concours du jour. Carte blanche du compositeur Benoît Menu au Festival aux Arts Contemporains à la Scala Paris. Ce sera le 12 octobre prochain à 21h. Il fallait, pour remporter des places, répondre à la question de savoir quel instrument jouait Romain David, eh bien c'était du piano. Les gagnants seront recontactés par email. Et puis, une petite information que j'ai oublié de dire tout à l'heure au propos des ombres, de ce concert des ombres avec Margot Blanchard que nous recevions tout à l'heure, qui était en concert hier soir, au Festival d'Ambronay, concert qui était enregistré par France Musique et qui sera diffusé sur nos ondes. Ce sera le 20 octobre prochain. Soyez donc au rendez-vous. Merci à toute l'équipe. Merci à Marie Ferdinand, David Travailleur, Emmanuel Morse d'Uncan, Diego Youtou Ac Lopez.
À réécouter sur francemusique.fr.